Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le débat sur le grand âge et cette enquête glaçante à paraître mercredi. Elle accuse de défaillance grave l'un des grands groupes gestionnaires privés d'EHPAD qui a suspendu sa cotation en bourse et dément ce soir. On y revient dès le début de ce journal. Au Burkina Faso, les militaires annoncent avoir pris le pouvoir. Le gouvernement et l'Assemblée nationale dissous. Les frontières fermées. Prise de parole il y a quelques minutes à la télévision. L'ancien président arrêté. Nous serons en direct de Ouagadougou. Dans l'actualité encore, Emmanuel Macron prend le pouls de la campagne dans la Creuse aujourd'hui. La responsabilité des policiers dans la mort du livreur Cédric Chouviat confirmée par une nouvelle expertise. Et puis on pourra voir les films sortis au cinéma encore plus tôt, quelques mois seulement après, sur nos écrans à la maison. Et au téléphone sonne Fabienne.
Et bien comme très régulièrement, France Inter est en partenariat avec Ipsos Soprasteria autour des grands enjeux et des grandes préoccupations qui sont les vôtres. À 76 jours aujourd'hui du premier tour de l'élection présidentielle, sans beaucoup de surprise, le pouvoir d'achat est en tête. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Pouvoir d'achat, santé, chômage, environnement, retraite, à vous de nous dire, à vous de nous expliquer avec vos remarques et vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Et voici donc une enquête qui, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, relance le débat sur la prise en charge de nos aînés. C'est un livre, Les Fossoyeurs, à paraître mercredi, mais qui secoue déjà fortement l'un des géants du secteur, le gestionnaire d'EHPAD privé Orpea. À peine des extraits de l'enquête de Victor Castenet publiés dans le journal Le Monde que le titre a plongé en bourse, au point que l'entreprise a décidé de suspendre sa cotation. Bonsoir Anne Orenstein.
Bonsoir Hélène.
Alors ce livre, c'est 3 ans d'enquête, 200 témoignages et des documents à charge.
Oui, par exemple, le récapitulatif des plaintes de plusieurs familles. Certaines dénoncent des soins d'hygiène non satisfaisants. Une fille réclame davantage de couches pour sa mère. Un avocat se plaint de repas rationnés. Une famille regrette qu'il n'y ait pas d'infirmière de nuit. Une autre souligne le temps de réponse anormalement long aux appels des malades. Tout ce que lit Victor Castanet dans ce document interne se révèle conforme à ce que lui racontent les témoins de ces maltraitances. Une auxiliaire de vie lui raconte par exemple que les personnes âgées n'ont droit qu'à 3 couches par jour, et cela quelle que soit leur situation, même s'ils sont malades par exemple. Idem pour les toilettes, un résident peut rester dans ses excréments jusqu'au soir.
Ce que pointe Victor Castanet, c'est le système mis en place, selon lui, par Orpea.
Oui, selon son enquête qu'il a menée partout en France, ces maltraitances, elles sont dépendantes du fonctionnement de l'entreprise. En clair, le but, c'est de faire de l'argent. Aujourd'hui, Orpea est le numéro 1 mondial du secteur des EHPAD. L'entreprise gère 110 000 lits, 1110 établissements dans 23 pays. Ces bonnes feuilles dans le monde ont donc déclenché une véritable tempête boursière. Tempête qui touche d'autres groupes privés d'EHPAD. La cotation d'Orpea a été suspendue à sa demande après 16% de pertes. Dans un communiqué de presse, le groupe conteste formellement l'ensemble de ces accusations et dénonce une volonté de nuire. Elle annonce avoir d'ores et déjà saisi ses avocats pour y donner une suite judiciaire.
Cette enquête, en tout cas, à quelques semaines de l'élection présidentielle, relance le débat sur le grand âge. La loi promise au début du quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas vu le jour. Une 5e branche de la sécurité sociale a bien été créée, mais elle est encore embryonnaire et l'offre de soins à domicile reste insuffisante. C'est le constat aujourd'hui de la Cour des comptes. Malgré les engagements des différents gouvernements ces 20 dernières années, il n'y a pas eu de vrai virage. La proportion de personnes âgées résidentes en EHPAD reste la même, 80%, par manque de professionnels, d'infirmiers notamment, mais de coordination également.
Au Burkina Faso, les militaires annoncent avoir pris le pouvoir à la télévision.
C'était il y a quelques minutes le porte-parole des putschistes.
Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Rochmar Christian Kabore ce 24 janvier 2022.
L'armée qui affirme que sa prise de pouvoir s'est déroulée sans violence, que les personnes arrêtées, dont le président, donc on l'entend, se trouvent en lieu sûr. Nous retrouvons Fanny Noharo, Radio France Internationale, en direct de Ouagadougou pour les toutes dernières précisions. Fanny Noirot en direct
de Ouagadougou. Le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirige désormais le Burkina Faso. Après plusieurs heures d'attente, les militaires confirment donc la prise du pouvoir avec à leur tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, un nom qui circulait depuis quelques heures déjà. Les militaires ont suspendu la constitution, dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Leur objectif, remettre le pays sur le bon chemin. Ils affirment que leur prise de pouvoir s'est faite sans violence physique ni effusion de sang et que le chef de l'État est détenu dans un lieu sûr. Il rassure les pays amis et partenaires sur le respect des engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme. Un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel sera annoncé plus tard. Les frontières aériennes et terrestres sont fermées dès ce soir et jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin.
Fanny Noirot, Radio France Internationale depuis Ouagadougou. L'Union européenne et Washington appellent à la libération immédiate du président du Burkina Faso, Kaboré. Jusqu'où ira l'escalade en Ukraine? Le ton est encore monté ces dernières heures et ce sont les États-Unis qui dramatisent. Pensant qu'une invasion russe pourrait intervenir à tout moment, ils ont décidé, comme le Royaume-Uni, d'évacuer leurs diplomates et leurs familles. Bertrand Galichet, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous avez pu vous entretenir avec l'ambassadrice américaine à l'OTAN.
Oui, l'ambassadrice Julianne Smith juge assez ironique les accusations de Moscou selon lesquelles l'OTAN et les États-Unis exacerbent les tensions en déployant des bateaux et des avions de guerre en Europe de l'Est. Julianne Smith rappelle que c'est bien la Russie qui a envahi la Crimée en 2014 et que c'est Moscou qui mène des actions d'intimidation dans les pays de l'OTAN et autour, notamment en Ukraine. L'ambassadrice qualifie de très farfelu le récit attribuant à l'Alliance Atlantique une attitude agressive contre les Russes. Pour Julianne Smith, le renforcement de l'OTAN à l'Est est justifié.
Les alliés, d'une façon très pragmatique, considèrent différentes options. La vérité est qu'aucun de nous ne sait quel chemin prendra le président Poutine finalement. Et parce que cela reste obscur, nous ne voyons aucun signe de désescalade. Les alliés de l'OTAN ressentent le besoin en ce moment de se préparer à toutes les éventualités et c'est exactement ce que nous faisons.
Julianne Smith se félicite de la position de la France qui se dit prête à envoyer des troupes en Roumanie sous commandement de l'OTAN. L'ambassadrice insiste beaucoup sur l'unité des alliés qui, selon elle, s'est manifestée depuis le début de la crise.
Bertrand Galichet. Puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi cette attaque en Allemagne. Un homme a ouvert le feu sur des étudiants qui suivaient un cours à l'université d'Heidelberg dans le sud-ouest du pays. Une jeune femme a été tuée, 3 autres personnes blessées. L'assaillant a retourné l'arme contre lui.
Une nouvelle expertise médicale accable les policiers après la mort de Cédric Chouviat.
Il y a 2 ans, ce livreur à scooter est contrôlé par la police à Paris, près de la Tour Eiffel. La tension monte, 3 policiers le plaquent au sol, casque sur la tête. Il crie, j'étouffe, avant de faire un malaise cardiaque et décède 2 jours plus tard, 2 ans plus tard. Donc les 5 experts mandatés par le juge d'instruction écartent l'état de santé antérieur de Cédric Chouviat pour expliquer son décès, mais mettent en cause les gestes d'interpellation. Un pas décisif pour l'un des avocats de la famille, Vincent Brangard.
Aujourd'hui, on a désormais la confirmation irréfutable que c'est bien leur action qui est bien à l'origine de son décès. Vous aviez Cédric Chouviat qui portait un casque, que malgré tout, il y a eu une clé d'étranglement. C'est un processus qui a évidemment probablement favorisé aussi son état d'asphyxie. Et non seulement on attend à ce que toutes les conséquences soient tirées dans ce cas individuel, dans ce cas particulier, mais aussi qu'il puisse y avoir enfin une prise de position tout à fait claire de la part du ministère de l'Intérieur sur le caractère complètement incompatible de ces comportements avec ce qu'on est en droit d'attendre d'un policier, de ses obligations professionnelles et déontologiques. Pour ce qui concerne en tout cas les causes de la mort, c'est une étape essentielle qui a été franchie.
Vincent Brangard avec Emmanuel Leclerc, 3 des 4 policiers ayant participé à ce contrôle ont été mis en examen à l'été 2020 pour homicide involontaire. Une 4e est placée sous le statut de témoin assisté. Cette fois c'est fait, c'est donc le pass vaccinal qu'il va falloir présenter pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre et pour boire un petit café le matin avec son journal au comptoir. Et pour certains, France a été une mauvaise surprise ce matin. Cet attaché de clientèle, notamment, n'avait pas bien saisi les règles. Pourtant, double vaccinée, elle pensait avoir un peu plus de temps pour faire sa troisième dose. Mais son pass a été désactivé dès ce matin. Elle préfère prendre la chose avec le sourire au micro de Julien Houry, France Bleu Pays d'Auvergne.
Je n'ai pas pu boire mon café en allant au bar, hein, parce que mon pass était désactivé, tout simplement. Je m'en doutais un petit peu, hein, puisque j'en avais parlé avec des amis qui commençaient à me chambrer. Je pense que j'ai pas tout compris, hein, notamment sur la loi, hein, les 7 mois, les 5 mois. Il y a eu beaucoup de changements en peu de temps. Et puis, prise par le temps, hein, comme tout le monde, hein, j'ai fait mes cadeaux de Noël. Du coup, j'ai eu moins de temps et je me suis dit que de toute façon, ça passerait quand même. J'ai de la chance par contre, hein, j'ai ma société, moi, qui pratique du télétravail. Hein, donc, j'ai quand même aussi appelé une pharmacie et je vais pouvoir avoir enfin cette fameuse troisième dose. Hein. Puis pour la quatrième dose, hein, je pense que je prendrai un petit peu plus à l'avance. Je ferai le nécessaire pour l'avoir en temps et en heure.
Et pendant ce temps, l'Italie atteint le pic de la vague Omicron et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est très prudente hein, sur l'évolution de la pandémie, pense tout de même que la fin de sa phase la plus aiguë est à portée de main. Les voyants sanitaires seront-ils donc bientôt au vert suffisamment en tout cas, pour que le président décide officiellement d'endosser l'habit de candidat. Emmanuel Macron s'y prépare, c'est certain, il était dans la Creuse aujourd'hui, la première fois depuis 5 ans, pour parler ruralité, déserts médicaux, échange avec de jeunes creusois dans un lycée agricole ce matin. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Il prend le pouls, défend son bilan et tente de casser son image.
Le président, micro en main, au centre de ces jeunes qui lui décrivent leurs difficultés, isolement, zone blanche, comme lors du grand débat, il veut leur prouver qu'il ne les a pas laissés tomber.
Aujourd'hui en Creuse, on a beaucoup de problèmes de transport.
Donc là, on est en train d'investir et on a massivement réinvesti, on met 2 milliards hein, sur la ligne 2. Ferroviaire.
Rien que le réseau en Creuse, c'est compliqué. Je veux dire, on n'a pas du réseau partout.
Alors, qu'il s'agisse de la fibre ou de l'internet mobile, ces dernières années ont été des années de très forte accélération de notre équipement collectif.
8 milliards et demi en tout pour le monde rural depuis 2017, assure l'Élysée. Mais les chiffres, les milliards, cela reste abstrait. Alors Emmanuel Macron tente la corde sensible. Soyez fiers d'être né dans la Creuse.
Bonjour Monsieur le Président de la République.
Et ce jeune de 23 ans, monté à Paris, comme il dit, pour étudier à Sciences Po, lui offre une ouverture en or. Certains me décrivent comme le président des villes, mais au fond, je suis comme vous.
C'est un petit peu difficile, les premières semaines. On se confronte parfois à un petit peu de condescendance, un petit peu de mépris quand on vient d'un petit lycée rural.
J'ai quitté ma ville d'Amiens pour arriver à Paris. J'étais beaucoup moins fort en culture générale et en anglais que beaucoup de mes camarades. Parce que j'étais pas une famille où on envoyait 2 fois par an en Angleterre, etc.
Un peu plus tôt, au milieu des vaches, un lycéen lui avait posé la question « Serez-vous candidat ?» Le président avait éludé, mais ne se prive pas d'un gros clin d'œil pour conclure l'échange. « J'ai bien pris note et je sais ce qu'il me reste à faire. »
Simon Le Baron avec Jérémy Thuil et puis interrogé sur les frais d'inscription à l'université dont il avait parlé il y a 10 jours devant les présidents d'université. Emmanuel Macron a aussi précisé sa pensée. Il souhaite une réforme globale mais n'a pas proposé une hausse du prix de la scolarité. Et ce matin, c'était Fabien Roussel qui présentait son programme. Le candidat communiste s'est fait remarquer hein, ces derniers jours. Il parle sécurité, il parle gastronomie française. Pour lui, c'est un bon vin, une bonne viande, un bon fromage. Alors ça agace à gauche, mais la droite applaudit. Fabien Roussel, pas mécontent de son petit effet, a replacé sa campagne sur le terrain des propositions aujourd'hui, avec la restauration et le triplement de l'impôt sur la fortune, le SMIC à 1500 euros ou encore un revenu pour les étudiants, Laurence Perron.
Fabien Roussel ironise, pour un candidat de droite, je suis quand même bien à gauche. Alors non, le candidat du Parti communiste français se défend de raser gratis.
L'argent, il est là. Il y avait, en 2017, 358 198 redevables à l'ISF. Ils ont déclaré un patrimoine net taxable de 1028 milliards d'euros. Et je peux vous annoncer que sur ces 1000 milliards, nous en prendrons 100. Ça leur laisse de quoi venir hein, quand même. Ils en auront encore 900 milliards.
On prend aux riches et on nationalise.
AXA, BNP, Société Générale. Il avait raison, Cantona, quand il disait « si on veut taper sur les banques, il faut tous aller chercher son billet ». Il avait raison. Mais on va le faire, nous, au niveau de l'État.
Autre thème fort du programme, la réindustrialisation.
Parce qu'il y a un vrai mensonge dans le discours que tient le président de la République et Bruno Le Maire. Le grand déménagement industriel de la France se poursuit. L'État, sa responsabilité, il est complice, il est actionnaire de ces entreprises.
Exit les déclarations d'amour aux forces de l'ordre. En revanche, sur le nucléaire, il ne varie pas. Il est nécessaire, selon lui, au mix énergétique, tout comme il condamne ce qu'il appelle l'écologie punitive. Quand on l'interroge sur le départ de certains communistes chez Jean-Luc Mélenchon.
Un de perdu, 10 de retrouvés. Ça ne nous fâchera pas, parce que la famille est grande, vous savez, la famille communiste. C'est du détail.
Un Fabien Roussel tonique qui promet une campagne joyeuse, pour coller d'ailleurs au slogan « Le retour des jours heureux ».
Jean-Luc Mélenchon sera de son côté en meeting à Bordeaux. Ce soir, Yannick Jadot avec des étudiants de la Sorbonne. Ni l'un ni l'autre ne veulent être soumis à la primaire populaire. Le vote est prévu en fin de semaine. 467 000 personnes s'y sont inscrites, annoncent aujourd'hui les organisateurs. Et puis le fraîchement rallié à Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, est aujourd'hui visé par une enquête sur de possibles détournements de fonds publics. À la suite d'informations révélées par Mediapart, un article de novembre dernier qui affirmait que le député du Loir-et-Cher avait utilisé des assistants parlementaires et des employés du conseil régional pour faire fonctionner ses micro-partis.
Le pouvoir d'achat, sujet de préoccupation majeure des Français en pleine campagne.
On va parler avec vous, Fabienne, juste après ce journal. Et la question des salaires y est très liée. Dans certaines entreprises, il y a des négociations. En ce moment, certaines avancent, mais d'autres piétinent. C'est ce qu'a voulu dénoncer Laurent Berger ce matin sur France Inter. Il était l'invité de la matinale, Nicolas Demorand et Léa Salamé. Et il a nommément cité la société Agnos, basée dans le nord de la France. L'entreprise emploie près de 500 salariés et produit entre autres du gel hydroalcoolique. Les négociations salariales sont en cours. Bonsoir Kathleen Comte.
Bonsoir.
Mais aucun accord n'a été signé pour le moment.
Non, et c'est bien cela qu'a voulu dénoncer Laurent Berger au micro de Léa Salamé ce matin sur France Inter.
Je vais vous donner un exemple d'une entreprise qui s'appelle Agnos, qui produit du gel hydroalcoolique. D'après vous, ils en ont produit beaucoup ou pas beaucoup ces derniers temps? Il y a besoin de répartition de la richesse.
Mais par exemple, dans cette entreprise, ils ont augmenté les salaires ou pas, puisque vous la pointez du doigt?
Cette entreprise, non. Mais non, sinon je ne la pointerai pas du doigt.
Le secrétaire général de la CFDT s'agace de voir que certaines entreprises ne semblent pas prêtes à faire des efforts envers leurs salariés. Chez Agnos, les négociations sont encore en cours, mais il n'y a pas d'accord signé pour le moment. Il n'y en a pas eu du tout l'année dernière, comme l'explique David Dutoit, délégué syndical CFDT Agnos en charge des négociations salariales.
Les propositions de la direction des augmentations étaient très insuffisantes par rapport à ce qu'on demandait à l'investissement des salariés. Et forcément, ça crée de la frustration. Aujourd'hui, les employeurs, pour X raisons, sont difficiles à la négociation.
David Dutoit reste malgré tout confiant. Dans ce contexte, la déclaration de Laurent Berger est un soutien supplémentaire.
Sur le coup, j'étais un peu déstabilisé parce que j'ai tout un programme de négociation. Maintenant, forcément, j'ai aucun doute, parce que la CFDT, on est sacrément soutenu, donc on est une vraie équipe. Le fait que ce soit Laurent Berger lui-même, forcément, oui, ça donne la motivation. Oui.
De son côté, la direction affirme que sa priorité est, je cite, de trouver un arrangement acceptable pour tous.
Et le pouvoir d'achat, c'est aussi le prix des carburants. Le gouvernement planche sur une nouvelle aide pour les Français qui travaillent, a répété ce matin le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Et il plancherait notamment sur le relèvement du forfait kilométrique. Toujours plus tôt sur nos écrans après la sortie en cinéma. À quel moment les films sont-ils disponibles à la télévision, sur les plateformes de streaming? C'est désormais l'objet d'âpres négociations. Un nouvel accord a été signé aujourd'hui. Canal Plus grand gagnant voit sa fenêtre de diffusion avancer de 8 à 6 mois. Les plateformes gagnent aussi quelques mois. Netflix, Amazon, Disney+. Pas de changement en revanche pour TF1. Ou France 2. Manuel Alduit est le directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions.
Le sujet n'était pas véritablement d'être à 22 mois ou plus tôt que 22 mois. Le vrai sujet, c'était l'exclusivité de notre exploitation. Est-ce que quand on diffuse un film auprès du public, il est disponible en même temps ailleurs? Je pense que nous avons partiellement rempli notre négociation, puisque la chronologie reconnaît l'importance de l'exclusivité des fenêtres des chaînes en clair. Et donc oui, nous pourrons continuer de proposer des films en exclusivité. Mais nous avons ouvert aussi d'autres scénarios où le public pourra voir simultanément un film sur une plateforme ou sur une chaîne gratuite si la négociation l'a permis. Il y aura toujours du cinéma sur France Télévisions. L'enjeu est de savoir c'est est-ce qu'il y aura du cinéma inédit autant qu'avant. Et cette nouvelle chronologie peut avoir comme risque de priver les chaînes en clair de certains films parce que les plateformes les auront rachetés avant nous pour une durée trop longue. Ça nous contraindra à repositionner notre offre de cinéma sur du cinéma de catalogue, par exemple. Donc pour l'instant, on n'est pas pessimiste, on est satisfait d'avoir une chronologie, mais on est vigilant.
Voilà, des films à la télévision sur France 2 ou TF1, 22 mois donc après la sortie d'un film. C'était Manuel Alduit, le patron du cinéma de France Télé, avec Alexandra Akoun.
Et c'était Hélène Philippe pour le journal, merci beaucoup. Hélène, on se retrouve évidemment demain. Nous, on reste ensemble dans un instant, c'est le téléphone sonne. On parle de vos préoccupations à 76 jours du premier tour de la présidentielle, appuyée par un sondage Ipsos Soprasteria en partenariat avec France Inter qui parle de pouvoir d'achat avant tout. Et vous, qu'en dites-vous? 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel avant cela.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, encore un temps calme. Demain, plus gris sur le nord en revanche.
Oui, de la Bretagne et du Pays Nantais vers l'Orléanais, le bassin parisien et les frontières du nord, les nuages bas seront vraiment très nombreux. Attention aussi au brouillard parfois givrant. En journée, le gris résistera, il y aura peu ou pas de soleil. Du Lyonnais vers le sud de la Lorraine, après la grisaille du matin, là le soleil s'imposera. Seuls quelques nuages résisteront vers le Val-de-Saône. Du Roussillon au nord de l'Aquitaine, là aussi, nuages bas, brouillard parfois givrant. Ils tarderont à se dissiper autour de la Garonne. Et puis ailleurs, du soleil dès le matin. Juste quelques nuages vite oubliés vers le Var.
Et puis il fera froid demain matin.
Des gelées fréquentes en effet, moins 5 à 0 degrés le plus souvent. Seule la Côte d'Azur et la Corse y échapperont. Et puis l'après-midi, 3 degrés à Lille, à Dijon, 4 au Havre, à Paris, Strasbourg, Rennes ou Tours. 7 degrés du côté de Lyon, il fera 9 degrés à Brest, à Bordeaux, 10 à Limoges et à Toulouse, 13 du côté de Marseille et 14 pour Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France. Merci Élodie.